L'exemplarité, anatomie d'une vertu politique.
Une affaire Epstein qui met en lumière les dérives morales de personnalités politiques. En France, une candidate à la présidentielle menacée d'inéligibilité et un ancien président multicondamné et un temps emprisonné. La question de l'exemplarité de ceux qui nous gouvernent est au cœur de l'actualité et de l'histoire. Depuis l'Antiquité, cette question hante en effet les démocraties.
Thomas Negaroff.
Six grandes dates, six épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec le professeur de droit Éric Buge.
Épisode 4. 1944, l'épuration politique ou l'invention de l'indignité nationale.
Tout individu ayant porté préjudice à l'unité de la France et négligé son devoir national tombe sous le coup de la loi. Ordonnance du 26 août 1944. L'exemplarité et son histoire, on la raconte avec Éric Buge, agrégé d'histoire, professeur de droit constitutionnel, qui a publié un livre exactement sur le sujet aux éditions du Seuil, « L'éclipse de la vertu, une histoire de l'exemplarité des gouvernants en démocratie ». On était là, Éric Buge, en 1944, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. L'épuration, est-ce que c'est une nécessité politique à l'époque et est-ce qu'elle est justifiée par une forme de vertu? Est-ce qu'on est dans un moment vertueux ou pas? C'est une question difficile, hein.
Alors, c'est une question difficile du point de vue de l'histoire longue qui est le mien. Il me semble qu'on est là dans un moment qui est atypique.
Oui.
Parce que c'est un des rares moments de l'histoire contemporaine de la France où on crée ce qui pourrait se rapprocher d'institutions de la vertu, où on remet à l'ordre du jour l'exemplarité. Et toutes les difficultés qu'on avait rencontrées depuis la période révolutionnaire pour instaurer des institutions de la vertu sont battues en brèche sous le fait de ce moment politique particulier qui est la libération de la France et l'épuration. Alors, comment est-ce que ça se manifeste? Ça se manifeste dans l'ordonnance, effectivement, du 26 août 1944, dont vous avez cité un morceau, qui va créer le régime de l'indignité nationale.
Oui, très important. Indignité nationale.
Indignité nationale, qui est un crime rétrospectif, en quelque sorte, qui est énoncé a posteriori, mais qui vise à prendre en compte tous les mauvais comportements ou comportements de collaboration, pour le dire d'un terme plus simple, qui ont pu prendre place dans les années précédentes. Et quel est l'objectif de cette ordonnance? C'est d'écarter, pour reprendre un autre de ces passages, d'écarter des postes de commandement les personnes qui étaient aux responsabilités sous le régime de Vichy. On veut marquer une rupture entre ceux qui étaient aux responsabilités sous Vichy et la nouvelle élite politique de ce qui va devenir la 4e République. Donc on est là dans un moment très particulier où on a en quelque sorte une parenthèse dans l'éclipse où, durant laquelle les institutions de la vertu ou les règles d'exemplarité vont regagner du terrain et être remises à l'honneur.
On va expliquer comment ça fonctionne concrètement, comment les institutions fonctionnent. Ces institutions dites de la vertu vont fonctionner quelques mois, quelques années seulement, mais ce terme « indignité nationale », on peut peut-être s'y arrêter, c'est une dimension presque morale, non? L'indignité.
C'est une dimension tout à fait morale, en tout cas dans le terme lui-même, et qui fait, de mon point de vue, bien écho à ce qu'on cherchait chez les gouvernants de l'époque, qui était non seulement d'avoir accompli un certain nombre d'actes qui étaient répréhensibles ou condamnables, mais également de s'être moralement compromis dans la France de l'occupation. Et donc, à côté de l'épuration sommaire ou de fait, prend place une épuration judiciaire qui doit conduire à changer le personnel politique, et en tout cas à faire en sorte qu'il y ait une discontinuité entre les fonctionnaires et les responsables politiques de Vichy et ceux qui seront aux commandes pour la naissance de ce nouveau régime politique.
Alors justement, quelles institutions? Parce qu'on est là sur des lois d'exception. Est-ce que des lois d'exception peuvent produire de l'exemplarité?
Alors, c'était précisément leur but que de produire de l'exemplarité. Comment est-ce que ça a fonctionné? Ont été rendus inéligibles tous les parlementaires qui avaient voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, le 10 juillet 1940, et tous les élus locaux qui étaient restés en fonction durant le régime de Vichy.
Inéligibilité à vie?
De plein droit. De plein droit. Et donc, ces personnes ne peuvent plus se présenter aux élections qui ont lieu à partir de la Libération. Donc, inéligibilité de principe. Toutefois, on voit bien que c'est une mesure peut-être un peu rude et un peu trop uniforme. Ouais. Et donc, on crée dans le même temps, et ça, c'est une autre ordonnance de 1945, qu'on va créer ce qui était à l'époque appelé un jury d'honneur, qui va pouvoir relever les parlementaires et les élus locaux en question, les relever de leur inéligibilité, c'est-à-dire annuler l'inéligibilité dont ils sont passibles de plein droit. Et pour ça, le jury d'honneur va entendre l'ensemble des intéressés qui vont venir comparaître devant ce jury d'honneur pour s'expliquer sur les faits de résistance dont ils ont pu être les auteurs. Il peut justifier qu'ils ont en quelque sorte racheté leur comportement qu'on peut leur reprocher par ailleurs. Et donc ce jury d'honneur va avoir la lourde responsabilité de dire qui peut avoir une carrière politique à la Libération et qui doit passer dans les oubliettes de la vie politique, au moins pour un certain temps.
Et qui compose ce jury d'honneur ?
Alors c'est un point tout à fait essentiel. On a vu dans un épisode précédent que l'un des échecs de la terreur ou de la révolution plus généralement à installer des institutions de la vertu était lié à un certain nombre d'apories. Et ces apories sont levées dans ce moment particulier de la libération et de l'épuration. Premièrement, c'était l'aporie de la vertu considérée trop généralement. On ne savait pas bien définir, identifier la vertu. Là, on a d'un côté ceux qui ont commis des actes de collaboration, de l'autre, ceux qui ont été auteurs d'actes de résistance. Donc on arrive mieux à matérialiser ce qu'est un bon comportement dans cet épisode de l'après-guerre. Donc, première aporie. Deuxième aporie, les révolutionnaires avaient échoué à créer une institution neutre qui soit capable de juger les gouvernants. Et donc, en 1792-1793, les Girondins et les Montagnards s'accusaient mutuellement de vouloir instrumentaliser la justice, instrumentaliser le tribunal révolutionnaire, toutes les procédures qui étaient créées, dans des optiques politiques. Et donc, il manquait une institution neutre qui puisse être exemptée de toute accusation ou instrumentalisation politique. Et donc, c'est votre question. Comment est-ce qu'on compose ce jury d'honneur en 1945 ? On le compose avec des personnalités indépendantes. Et donc le jury d'honneur va être présidé par le vice-président du Conseil d'État. Et il est composé de trois membres tout aussi indépendants, donc qui sont en dehors des courants politiques, en dehors des clivages politiques. Et donc c'est une des premières institutions impartiales qui ensuite, dans les 50, 60, 70 ans qui suivent, vont être périodiquement créées pour s'assurer de la régulation de la vie politique. Mmh. Donc on a là une innovation importante. Et puis troisième aporie qui avait été rencontrée, c'était, mais est-ce que juger des responsables politiques, et notamment des parlementaires, ça n'est pas remettre en cause le suffrage électoral ? Mmh. Et d'ailleurs, un certain nombre de parlementaires qui sont jugés par le jury d'honneur le soulèvent. Disent, vous n'êtes pas légitime pour me juger. Moi, j'ai été élu par mes électeurs, je ne rends compte qu'à mes électeurs.
Très intéressant.
Et d'ailleurs, un certain nombre avaient été réélus au municipal. Au sortir de la guerre. Ils disent, bah, vous voyez bien, mes électeurs me font confiance, ils m'ont réélu. Peu importe. Donc cet argument est balayé dans les circonstances de l'époque et les circonstances exceptionnelles de l'époque. Et donc on résout aussi cette troisième aporie qui faisait qu'on peinait à concevoir intellectuellement comment est-ce qu'on pouvait passer outre l'élection. Quelle était la puissance au-dessus de l'élection qui pouvait dire à un élu, non, là vous avez fauté, vous n'êtes plus apte à exercer un mandat si jamais les électeurs continuaient à vouloir lui faire confiance. Et donc c'est en ce sens un moment très particulier où on arrive à apporter des réponses à ces trois questions fondamentales et où donc on met en place une institution de l'exemplarité.
En vous écoutant, je me disais aussi que c'est très intéressant que l'épuration mette en place des institutions de vertu, sachant que Vichy l'avait fait aussi. C'est comme une réponse à Vichy en miroir inversé, non ? Parce que Vichy avait aussi sorti du cadre national ce qu'il considérait comme indigne.
Tout à fait.
Vous n'y aviez jamais pensé, j'ai vu à vos
yeux. Non, exactement. Vous m'ouvrez des perspectives et je dois dire que le fait de caractériser les institutions de Vichy comme institutions de la vertu, pour moi, était...
La vertu, il n'a pas de couleur.
Exactement. Et c'est un des points fondamentaux. Mais en tout cas, sous Vichy, je ne crois pas qu'il y ait eu de mise en place de procédures qui visaient à contrôler la vertu. Il y avait des lois d'exclusion. Ça oui. Mais des lois où on demandait compte aux gouvernants, au maréchal Pétain, aux membres de son gouvernement, de leur comportement, je ne crois pas.
Non.
Et notamment, le Parlement ayant été ajourné, donc même les institutions représentatives classiques, dont on a vu les limitations, pourtant, dans le contrôle de l'exemplarité des gouvernants, ne fonctionnaient plus. L'opinion publique, qui est aussi une autre modalité de contrôle des gouvernants, et la liberté de la presse, était complètement atrophiée également. Donc, je pense pas qu'on puisse dire que le régime de Vichy avait instauré une politique de la vertu, ou en tout cas des institutions que j'essaye de caractériser comme institutions de l'exemplarité.
Alors on bascule un peu dans les années, les premières années d'après ces lois d'exception, de l'épuration. Est-ce que des lois d'exception vont devenir des lois habituelles de la République, ou elles vont demeurer des lois d'exception qui vraiment visaient à purger le corps politique après la Seconde Guerre mondiale ?
Alors c'est effectivement des lois qui vont demeurer une simple parenthèse, liée au contexte qui suit immédiatement la libération, donc au contexte de l'épuration, et ces institutions de l'exemplarité vont être limitées à la période 1944-1945. À la suite, notamment sous la 4e République, on revient à un système politique qui est très proche de celui de la 3e République.
Oui.
Par exemple, les immunités parlementaires sont rétablies. Alors que précisément, les immunités parlementaires n'avaient pas fait obstacle à ce qu'on puisse condamner oui. les parlementaires pour un acte de leur mandat. Pour
ouais.
Le fait d'avoir voté les pleins pouvoirs aurait dû être couvert par l'immunité
oui,
parlementaire.
Absolument.
C'était un acte du mandat.
Ouais.
La loi d'exception de 1944-1945 passe outre l'immunité parlementaire, mais cette parenthèse se referme. Dès 1945-1946, on élabore les institutions de la 4e République et on reprévoit une immunité parlementaire pleine et entière. Donc il n'y a pas eu de suite.
Est-ce qu'il y a eu des débats ? Est-ce qu'il y a eu des débats sur cette question en particulier lorsqu'on élabore la constitution de la 4e République en France ?
Il y a eu des débats et cette question des immunités parlementaires est très intéressante à étudier sur la période 44, 46, 47 parce qu'on passe à peu près par toutes les couleurs. pour le dire autrement, on accepte en 44, 45 de lever l'immunité parlementaire et un certain nombre de parlementaires protestent devant le jury d'honneur. Ils disent « cet acte-là, vous ne pouvez pas me le reprocher ». Un, parce que je suis élu, vous n'avez pas de légitimité à me juger. Deux, parce que mon immunité parlementaire me couvre.
Mmh.
L'immunité qui m'est accordée par les lois constitutionnelles de la Troisième République empêche que vous puissiez me juger pour un acte que j'ai accompli en tant que parlementaire. Et en 46-47, on revient vers une vie politique plus normale, plus apaisée. Et donc là, c'est la dimension immunité qui va reprendre le dessus. Et dans les deux cas, on a des débats intéressants, deux principes, mais qui sont tranchés dans un sens, dans un premier temps, et dans un autre, dans un second temps.
Mmh.
Et on peut, si vous m'autorisez un petit excursus... Dire que cette phase de l'épuration juridique a été exceptionnelle pour la France, mais elle a pu servir de modèle à l'étranger, notamment au travers de la politique qu'on a appelée politique de lustration lors de la chute des États communistes à la fin en Europe de l'Est.
Ouais.
On a mis en place ces politiques de lustration qui visaient précisément à écarter du pouvoir les anciens responsables politiques communistes, les anciens responsables des services secrets, de manière à régénérer la classe politique. Et donc, on a là des institutions qui peuvent s'inspirer.
Le modèle était clairement la France ?
En tout cas, les institutions sont très analogues à celles qui avaient pu être mises en place lors de la phase de l'épuration juridique. Et beaucoup d'États en transition démocratique sont confrontés à cette nécessité de renouveler leur personnel politique, de démocratiser le personnel politique, et en même temps de ne pas trop affaiblir l'État.
Oui.
Parce que souvent, l'un et l'autre ne vont pas très bien ensemble.
Et c'est d'ailleurs peut-être l'une des raisons pour lesquelles l'épuration ne va pas se prolonger au-delà de 1945 en France.
Tout à fait, et il y a même des lois d'amnistie dans les années 1950 qui font qu'on peut vraiment dire que cette politique d'exemplarité est limitée à l'immédiate après-guerre, et ensuite la vie politique représentative, parlementaire, reprend le dessus.
On était en France, pour l'épisode suivant, on va faire un tour de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, parce qu'un immense scandale qui va aboutir à la démission d'un président aura des conséquences sur la vertu en démocratie. L'exemplarité, anatomie d'une vertu politique, est un podcast original de France Inter.